Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Communiquer sur la crise écologique et les enjeux environnementaux semble essentiel aujourd'hui pour s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader. Des solutions et des bonnes nouvelles, Pioche, le magazine de l'écologie du quotidien, en a plein. Fermes urbaines, forêts comestibles, mobilisation citoyenne. Ce tout nouveau magazine en ligne vous fait découvrir de nombreuses initiatives dans la France entière. Lancé il y a quelques mois par deux journalistes culturels, Jean-Paul Degnaud, ancien rédacteur en chef de Trax Magazine, et Calix de Procès, journaliste pour News Tank Culture à Paris et Montréal. Jean-Paul Degnaud est notre invité dans ce nouvel épisode des Écolonautes. Les Écolonautes, épisode 11. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Lucie.
Pioche, c'est donc l'écologie au quotidien, c'est un magazine en ligne pour l'instant. De quel constat il est né ce projet ? L'écologie était au cœur de vos réflexions à ce moment-là ?
Oui, complètement. En fait, le magazine est né, je crois qu'il est né bien plus tôt, en fait, chez Calixte de Procès et moi, donc on est les deux cofondateurs de Pioche. En fait, Calixte et moi avons ce point commun d'avoir grandi à la campagne, donc lui en Bretagne et moi en Vendée. On a ensuite fait nos petits parcours de journaliste à la ville, à Paris, à Montréal. Et je pense que ces racines en pleine campagne ont fait naître une sensibilité pour l'écologie qui est restée un peu tue avec toute la modernité et le travail de journalisme et la ville. Mais on a toujours eu ce goût pour la nature, pour nos rapports aux animaux non humains et à la campagne en général. Et en fait, on s'est retrouvé l'an dernier avec ce pari de transformer nos parcours de journalistes culturels et de vraiment se dédier à cette sensibilité-là qui nous animait depuis longtemps pour développer un magazine qui défend une écologie du territoire local, de proximité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des initiatives qui naissent partout et voilà, on a vraiment très envie de les défendre, de les pousser plus loin, de les renforcer, d'aider en tout cas humblement à les renforcer. Pioche est née un peu sur ce pari-là.
Vous étiez tous parisiens quand ce projet est né. Quel constat était fait que la nature est aujourd'hui plus éloignée de votre quotidien et pourtant l'urgence liée à la crise climatique, elle est peut-être plus visible aussi?
Complètement. Et l'urgence est complètement visible. On se rend compte aussi qu'elle est de plus en plus partagée par le plus grand nombre. L'information circule partout, les grands médias ont maintenant leur verticale verte. On sent que l'information circule. Nous, on s'est dit, en fait, l'urgence est comprise. Il y a des médias très spécialisés qui vont aller justement nourrir de chiffres, d'analyses ce constat-là, de l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter à ce débat-là? Comment est-ce qu'on peut enrichir ce sujet? Et comment est-ce qu'on peut peut-être développer un autre discours sur l'écologie? Et c'est comme ça que Pioche est né, en étant un peu complémentaire de ces médias spécialistes et aussi de ce qui se passe dans les grands médias nationaux, en allant justement chercher les porteurs de projets, les créateurs, les idées, à la manière de ce que l'on faisait avant, parce que Calixte et moi étions journalistes culture. Donc moi pour Trax, donc j'étais rédacteur en chef pendant quelques années, et Calixte pour News Tank, donc un autre média culturel, développer ce journalisme culturel sur l'écologie, en allant parler de portraits, en allant mettre en avant des idées, des créations, et puis aussi en faisant des ponts, ce qui est chose rarement faite, des ponts entre la culture et l'écologie. Mais évidemment, l'urgence climatique, c'est notre point de départ à Calix et moi. C'est plutôt moins que le point de départ, c'est peut-être le déclic qui a fait qu'on a voulu vraiment démarrer cette aventure maintenant.
Est-ce que les causes de la crise écologique, elles sont aussi plus palpables dans des grosses villes style Paris? Et que du coup, ça impulse ce genre de projet?
C'est assez étonnant, mais on a tendance, quand on habite en ville, à oublier en fait le monde de la nature, de la campagne, parce qu'on est toujours pris par un rythme effréné du travail, des transports, etc. Il y a eu un déclic important pendant le premier confinement en ville, je pense, pour tous les citadins, en fait, quand la ville s'est arrêtée. On a pu revoir, d'ailleurs, des images assez dingues, hein, d'animaux qui refaisaient surface, qui traversaient les rues vides, et de revoir cette ville un petit peu calme, apaisée. Je crois que beaucoup ont rouvert les yeux sur ce que pouvait être la vie autrement que citadine. Et ça a été, pour le coup, personnellement, mon cas aussi. Je dirais qu'en ville, le changement est palpable, mais on l'oublie. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, pas que la ville, en fait, n'est pas forcément souhaitable. Le constat qui a été partagé par beaucoup, hein, puisqu'on sait l'exode urbain existe aujourd'hui pour aller vers des villes plus petites, voire pour le monde rural.
Et donc l'écologie, hein, c'est vrai, semble aujourd'hui être au cœur des préoccupations. Est-ce que, d'après vous, il s'agit vraiment d'un mouvement citoyen qui va faire avancer les choses?
Disons qu'il y a un constat partagé par de plus en plus de monde qui est lié à la fois, je pense, à l'information qui circule mieux via justement un grand nombre de médias, qui est lié aussi, je pense, à ce moment un peu délicat de pandémie là où on est quand même touché tous intimement par les conséquences de nos modes de vie et du mode de production de nos sociétés. Donc il y a une prise de conscience qui est à la fois plus grande et aussi plus forte, plus intime. C'est évidemment un bon point de départ pour qu'il y ait une réaction. On connaît l'incertitude qu'il y aura quand la vie va reprendre normalement, avec des guillemets. Est-ce qu'on reprendra nos voyages 3 à 5 fois par an à l'autre bout du monde? Est-ce qu'on reprendra une consommation qu'on avait l'habitude de faire? Ou est-ce qu'on aura vraiment intégré le fait que finalement, à la fois l'habillement, le transport, le logement sont des causes du changement climatique et qu'on doit tous faire un effort là-dessus? C'est une question qui reste ouverte, je pense. C'est un peu l'objet d'un média comme Pioche que de montrer maintenant, au moment où il y a cette prise de conscience, que des alternatives sont possibles et qu'on peut changer nos modes de vie. Et que c'est parfois assez simple, que les solutions se trouvent souvent très près de chez nous.
Et les solutions se trouvent aussi parfois dans la communication, de la manière dont on va communiquer au public, que ça soit de manière positive ou négative. Ça a un réel impact, je pense, sur les prises de conscience des citoyens. Pioche, c'est un projet ambitieux car vous souhaitez brosser vraiment l'ensemble du territoire. On l'a dit tout à l'heure, quel est le modèle économique que vous avez choisi pour l'instant ?
L'enjeu, c'est vraiment de travailler sur le territoire français. On sait qu'il y a d'autres médias qui visitent de super initiatives à l'autre bout du monde. Nous, notre enjeu, c'est montrer que près de chez soi, il y a des gens qui poussent des initiatives, des idées, des alternatives qui nous permettent de changer nos modes de vie de manière très pratique et simple. Ensuite, évidemment, c'est toujours la question, quand on lance un média, du fonctionnement du mode économique. On n'échappe évidemment pas à la règle de la crise de la presse et que c'est compliqué de trouver un modèle stable. Pour ma part, je viens d'une expérience du journalisme culturel où on avait une relation très forte avec nos partenaires, avec des partenaires avec lesquels on partage les mêmes valeurs. C'est sur ce modèle-là qu'on veut construire le modèle de Pioche, c'est-à-dire en construisant des partenariats avec des porteurs de projets et des entreprises avec lesquelles on partage les mêmes valeurs, pour produire du contenu, pour produire des vidéos, pour peut-être créer des événements, pour aller à la rencontre des producteurs et des artisans, pour monter des conférences en ligne, créer peut-être un marché annuel où on pourrait justement faire rencontrer les lecteurs et ces innovateurs, ces créateurs. Il y a plein de petites manières comme ça qu'on pourrait mettre en place et pour créer ce modèle. Alors bien sûr, l'événementiel en ce moment, c'est compliqué, mais on démarre déjà avec des contenus, avec des super idées, des super initiatives. Et chose intéressante, le média est juste né, que déjà beaucoup de porteurs de projets viennent nous voir pour qu'on parle d'eux. Donc c'est avec eux qu'on va discuter et construire le modèle de Pioche de demain.
L'idée, c'est aussi de faire attention aux impacts du numérique, du papier, de mélanger les deux, de trouver un équilibre. Est-ce que vous souhaitez à un moment sortir du papier pour Pioche ?
C'est assez amusant parce qu'en fait, le papier, effectivement, est générateur de coûts de production et de pollution. Le numérique l'est aussi. Donc c'est assez difficile de trouver un modèle de presse qui soit véritablement vertueux. Pour Pioche, on a choisi de vraiment de travailler sur les différents aspects. Alors c'est un site internet avec une newsletter, et bon, c'est quelque chose d'assez sommaire, mais sur les petits éléments de production comme ça sur lesquels repose Pioche, on a essayé de trouver à chaque fois le meilleur critère, le meilleur partenaire pour pouvoir être vertueux. Par exemple, le site est hébergé en France, à Clermont-Ferrand, un hébergeur qui a choisi de valoriser ses déchets, de faire attention à sa production d'énergie. Nos newsletters viennent d'un partenaire français également. Sur le petit modèle économique qu'on a, le modèle de production, on a choisi de faire appel à des gens vertueux.
Maintenant, sur les sujets, Jean-Paul Deniaux, s'inspirer, se réinventer, s'impliquer, s'évader, c'est comme ça que vous avez décidé de segmenter tous vos sujets. Pourquoi ce choix ?
Ça correspondait aux différents axes éditoriaux sur lesquels on voulait partir, et puis sur les différents effets qu'on voulait avoir sur nos lecteurs. Évidemment, se réinventer, comment au jour le jour trouver des solutions pour changer ses réflexes, ses modes de vie, s'impliquer évidemment pour mettre en avant des associations, des ONG, des prises de parole fortes de personnalités. Par exemple, on a vu Comme Gershig qui a lancé un procès contre les 4 grands groupes de télécommunications pour qu'ils aient une réflexion sur la 5G. Jean-François Julliard, également directeur de Greenpeace France, qui nous a accordé un entretien, c'est dans cette rubrique de s'impliquer, c'est vraiment pour s'engager au-delà de son quotidien. S'évader, c'est aussi pour montrer les alternatives au voyage de long trajet, au long cours, à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, on peut aussi voyager près de chez soi Il y a des week-ends possibles et merveilleux à faire en Bretagne, en Corse, que sais-je. Et puis s'inspirer, c'est aussi pour montrer que la création, l'artistique, la culture est souvent génératrice d'innovation, d'espoir et d'inspiration pour tout le monde. Donc c'était un peu les grands axes comme ça qui nous ont paru les plus pertinents pour porter l'ensemble du projet éditorial Pioche.
On le sent bien aussi, l'idée c'était de faire une grande place à l'écologie positive, de l'écologie de solution, un journalisme plus positif. Et est-ce que vous allez axer essentiellement votre ligne éditoriale là-dessus pour éviter le catastrophisme qui peut parfois être un peu démobilisateur ?
Absolument. En fait, on s'est dit que, comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de magazines, papier ou web, qui font très bien le travail de porter à la connaissance du plus grand nombre des chiffres, des éléments factuels. Je pense à L214 sur l'élevage intensif, je pense à Reporter qui fait de super analyses, je pense à Socialterre qui fait parler de grands sociologues, philosophes sur ces sujets contemporains. On admire leur travail. Maintenant, on pense aussi que ce discours n'est pas forcément adapté à tous, tout le temps, et qu'il y a besoin d'une complémentarité avec un journalisme plus, effectivement, alors positif, ça pourrait amener, on pourrait penser du coup que c'est un journalisme naïf, mais c'est vraiment plus un journalisme de solutions, d'idées, de création, pour aller plus loin, pour être mobilisateur, parce qu'on pense que c'est cette multiplicité des discours qui va en fait convaincre l'opinion dans son ensemble. Et évidemment, on a besoin que l'opinion dans son ensemble soit convaincue pour porter demain de nouvelles politiques au niveau local et national et international sur ce monde et le changer.
Et l'action permet d'aller mieux. D'ailleurs, les propos de Rhône que vous avez relayés sur Pioche, si l'écologie commence à te questionner, il faut attaquer avec ce que tu sais faire, musique, dessin, film. Pourtant, quand on tourne à travers le monde pour ces projets musicaux, on a un impact clair et nocif.
La réflexion de Rhône est assez intéressante parce que c'est un artiste qui effectivement a beaucoup tourné dans le monde entier et qui, comme tout le monde d'ailleurs, on a tous pris des avions, on a tous mangé de la viande rouge beaucoup trop, on a tous acheté des fringues neuves beaucoup plus que ce dont on avait besoin. Il est à l'image de son public, à l'image de nous tous. En fait, il a cette prise de conscience évidemment tardive, mais sincère et réelle. Et il se pose la question de voilà comment moi je peux agir à mon niveau, surtout quand je m'appelle Rhône et que les gens me connaissent. Eh bien, je peux le faire de deux façons, certainement. La première, c'est de m'engager sur des projets créatifs qui véhiculent un message. Il le fait avec son dernier spectacle, Room with a View, fait désormais dans ses travaux, ses différents disques. Il le fait aussi dans ses prises de parole publiques et puis aussi, surtout, dans son action individuelle. Et c'est vrai que pour la culture, c'est un gros enjeu parce qu'on sait le modèle culturel, fragile dans son économie. Or, le constat écologique pour la culture est dramatique, à la fois pour le déplacement des artistes que pour le déplacement des publics pour les événements. La production d'événements est très coûteuse en énergie, en déchets, en alimentation, etc. Enfin, c'est quelque chose d'assez lourd. Le streaming qui se développe est évidemment un fort poids en énergie. Bref, la culture est un tournant aussi de remise en question de son modèle à un moment où elle est fragilisée.
Est-ce que c'est possible, justement, de faire cette transition écologique pour le milieu de la culture? Est-ce que c'est possible maintenant? C'est le bon moment?
C'est possible maintenant, c'est le bon moment. De toute façon, c'est toujours le bon moment d'agir. C'est surtout comment. Et en fait, c'est en choisissant ces modes de diffusion, c'est tous les éléments, parce que la culture, quand la production culturelle, c'est énormément de partenaires, de prestataires et d'éléments qui rentrent en compte. C'est en choisissant sur tous ces petits éléments-là, la façon la plus vertueuse de le faire. Des tournées qui sont longues dans des pays, multiplier les dates dans un même territoire et peut-être faire autre chose que simplement ses concerts, mais peut-être s'investir auprès des associations, des collectifs locaux. Lorsqu'on fait un événement, c'est vraiment faire attention au transport des publics, l'énergie utilisée, l'alimentation. Est-ce que l'alimentation est locale? Est-ce qu'elle est de saison? Est-ce qu'on privilégie des producteurs et des restaurateurs locaux? Et la liste est très longue sur la diffusion. Pareil, est-ce qu'on privilégie vraiment une vidéo? Sur quelle plateforme? Ou est-ce que finalement du son ne serait pas suffisant? Il y a tout un raisonnement à avoir et qui est vrai pour tous les secteurs d'ailleurs.
Autant de sujets que vous allez pouvoir développer sur Pioche.
C'est des sujets qu'on a déjà commencé à traiter, notamment un article sur cette association nantaise qui s'appelle Mama Loves Ya, qui est poussée par la DJ Anenta. Et justement, c'est un collectif de DJ et d'ailleurs de professionnels de la musique qui s'interrogent sur leur rôle et sur leur poids dans cette nouvelle écologie et qui réfléchissent à comment agir à leur niveau.
On a bien compris que Pioche allait être à l'échelle nationale, mais on va pouvoir vous croiser chez nous, à Nantes, par exemple. C'est ça l'idée, oui. C'est que vous déployez des journalistes dans toute la France.
Absolument. On a un petit pool de journalistes. Alors, le média commence. Donc on a évidemment un petit pool de journalistes qui sont pour l'instant bénévoles. Mais effectivement, on a du monde en Bretagne, à Nantes, en Vendée, à Lyon et un peu partout. L'idée, c'est d'être au plus près du territoire, quitte à faire des choses au téléphone, bien sûr, de couvrir surtout les régions qui sont moins sous les projecteurs, disons.
Et comment on peut vous aider, Jean-Paul ?
Bien justement, alors on a lancé une campagne de financement participatif. On fait appel à nos lecteurs en ce moment pour pouvoir développer les médias et aller plus loin, proposer plus de reportages, développer des contenus, justement des courtes vidéos pour le coup, et développer aussi des événements, des rencontres avec les artisans et les producteurs et éventuellement ce marché dont je parlais tout à l'heure, un marché où on pourra retrouver des porteurs de projets et les rencontrer et discuter avec eux. Et donc, on a lancé cette campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Elle est à retrouver sur le site de Pioche et sur nos réseaux sociaux. Donc, dès maintenant, donc pour justement que ce média qui est né en octobre avec zéro moyen puisse proposer plus de choses demain.
Pioche, le magazine de l'écologie au quotidien à découvrir sur piochemag.fr. Et bien sûr, vous pouvez les soutenir grâce à cette cagnotte KissKissBankBank. Merci beaucoup, Jean-Paul Degnaud.
Merci beaucoup, Lucie.
Les Écolonautes, épisode 11, à retrouver sur le www.prune.net.